enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Donc le titre, qu'est-ce que tu médites ? Lorsque nous posons la question, qu'est-ce que tu médites ? Il y a toujours un petit soupçon, c'est qu'on se dit... Il doit être en train de préparer quelque chose qui n'est pas très bien. Hein? Si on le dit à un enfant, on le soupçonne qu'il est en train de vouloir faire une bêtise ou quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce que tu médites est extrêmement important pour nous. Chaque chrétien doit se poser cette question. Qu'est-ce que je médite? Qu'est-ce que je suis en train de méditer? Parce que la méditation, plus qu'une simple lecture de la parole de Dieu, est ce qui va nous aider. D'accord? Tout le monde peut lire la Bible. Tout le monde en est capable. À moins d'être complètement analphabète. Mais sinon, on peut ouvrir un livre, on peut lire les mots qui sont écrits dedans. C'est pas ça là, il n'y a pas d'exploit dans le fait d'ouvrir un livre et de lire ce qu'il y a dedans. Mais on peut lire la Bible par sentiment religieux, devoir accompli, il faut faire ça, il faut que je lise la Bible. Ou alors, et c'est ce qu'il nous faut faire, nous approcher de la Bible en disant « Dieu veut me parler maintenant. Qu'est-ce que tu as à me dire dans ta parole ?» Et quand il a quelque chose à me dire, ça ne dépend pas de la quantité de choses lues, mais ça dépend de mon attitude, ma capacité de recevoir. Déjà, est-ce que je veux recevoir des conseils de la part de Dieu ? Pouvons-nous nous permettre de nous priver du conseil du Très-Haut ? Dans Proverbes, chapitre 22, et au verset 17, il est dit « Prête l'oreille, écoute les paroles des sages, applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi, et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je veux t'instruire aujourd'hui, oui toi. N'ai-je pas déjà, pour toi, mis par écrit des conseils et des réflexions ?» pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. » Dieu, c'est lui qui parle au travers de ce passage, dit « Je veux t'instruire aujourd'hui. » Oui, toi. Dites-le à votre voisin. « Je veux t'instruire aujourd'hui. » Oui, toi. Il y a des conseils et des réflexions que Dieu a mis par écrit. Celui qui méprise la parole de Dieu se perd lui-même. Il rejette le conseil du Tout-Puissant. Et ça a été fait combien de fois ? Combien de fois ? Mais comme je l'ai dit, il y a une chose de lire la Bible, c'est bien, mais nous devons absolument apprendre comment pouvoir la méditer. Comment pouvoir la faire rentrer en nous. Que ça passe, on peut dire, de la tête, de la pensée, dans le cœur. Ça fasse partie de nous. Parce que trop de gens ont essayé de mettre la foi en pratique, mais leur foi n'était pas une foi du cœur. D'accord ? Je prends un exemple. 1 Pierre 2, 24 dit, « Lui par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. » C'est une vérité de la parole de Dieu. Jésus est mort pour nos péchés et il est aussi mort pour nos infirmités et nos maladies. Nous le savons. C'est écrit dans la Bible, pour nous, ça a preuve d'autorité. Ainsi, nous pouvons donc, face à une maladie, choisir soit d'aller dans le naturel seulement, essayer par toutes sortes de remèdes, aller chez les médecins, hôpitaux, opérations, autre chose. Ça, nous pouvons en avoir besoin. Des fois, il vaut mieux passer par là, sinon on ne serait même plus en vie. Ou alors, nous pouvons aussi, et ça nous devons toujours mettre le Seigneur en premier, chercher auprès de lui la sagesse, et chercher que dit la parole de Dieu de notre situation. Eh bien, la parole de Dieu est claire. 1 Pierre 2, 24, lui, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. C'est au passé. Donc, Dieu a fait tout ce qu'il fallait pour que nous soyons guéris. Maintenant, celui qui a compris comment ça marche pour pouvoir nous approprier des promesses de Dieu, il sait que le croire est une chose, mais il nous faut encore rajouter quelque chose d'autre, c'est de le déclarer de notre bouche. Parce que Nous avons besoin d'utiliser nos paroles. Alors nous pouvons le dire comme un perroquet. J'ai été guéri par les meurtres sociaux de Jésus. J'ai été guéri par les meurtres sociaux de Jésus. Et c'est pas que ce soit mal de le faire, mais s'il n'y a pas cette harmonie entre notre bouche et notre cœur, ça ne produira pas d'effet. En le disant et en le répétant, il se peut que cette parole que nous entendons encore et encore, à un moment donné, pénètre dans notre cœur. Et si à ce moment-là, elle est dans notre cœur et dans notre bouche, cela va produire l'effet que nous attendons. Mais des fois, il y a des gens qui ne l'ont pas dans le cœur, qui ne comprennent pas comment le faire rentrer dans le cœur, et ils essayent tout de même de le répéter, répéter, répéter. Ce qui a fait que beaucoup de gens ont critiqué et ont dit, mais ça, c'est des techniques de méthode couée, d'autosuggestion, et ce n'est pas la parole de Dieu. C'est vrai que si ça ne reste que dans un domaine intellectuel, la puissance et la portée sera relativement réduite. Quoique elle n'est pas entièrement nulle, hein, parce qu'il y a des maladies qui sont psychosomatiques, qui sont au niveau de notre intellect, qui agissent sur le corps. Donc ça peut avoir un effet bénéfique. Mais ce n'est pas ce que nous recherchons. Ce que nous recherchons, c'est que la parole de Dieu, qui est toute puissante, puisse avoir l'impact dans notre vie que nous attendons. Et pour ça, nous avons besoin de méditer. Josué 1,8 nous dit une formule, j'ose utiliser le terme, formule pour le succès. Beaucoup de gens cherchent la formule ou la recette. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc succès et réussite sont promises dans la parole de Dieu pour quiconque met ce passage en action. Et dans Josué 18, au verset 3, nous lisons la chose suivante. Non, pas 18. Si. Voilà. 18, verset 3. Josué dit aux enfants d'Israël, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné ?» Il y a une négligence dans le peuple de Dieu, nous devons l'admettre, une négligence à entrer dans le pays promis. Pourquoi ? Rappelez-vous que Israël était tellement content d'être sorti d'Égypte qu'il y en a, il n'était même pas intéressé d'aller dans le pays promis. Il y avait par exemple deux tribus et demie, ils avaient leur troupeau, ils ont dit, nous, nous voulons rester de ce côté du Jourdain. C'est bien pour nos troupeaux ici. On reste de ce côté. Donc il y a des chrétiens aussi qui raisonnent comme ça, en disant, mais on est très bien ici, mais il y a un pays promis dans lequel nous devons rentrer. C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'était pas d'errer dans le désert. Mais certains trouvent que c'est bien dans le désert. Il y a quand même la nuée. Et puis il y a des miracles. Quand on a besoin d'eau, eh bien, le Seigneur fait sortir de l'eau du rocher. Quand nous voulons de la viande, il fait pleuvoir des cailles. Et ainsi, il y a une provision de Dieu. Et puis, il y a la manne. Donc, c'est pas si mal. Mais nous devons comprendre que nous ne pouvons pas plaire à Dieu en restant toujours en dehors de ce qu'il a prévu pour nous. Et ce qu'il a prévu pour nous, en plus, c'est le meilleur pour nous. Mais il peut y avoir une négligence. Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Tu as un pays aussi que Dieu t'a promis. Tu es en dehors de ce pays. Je pense que la plupart d'entre nous, nous sommes en dehors du pays que Dieu a promis. Nous voulons y aller depuis des années. De temps en temps, on a peut-être fait une petite incursion, mais on est toujours retourné de nouveau de l'autre côté du Jourdain. Mais nous devons y aller et comprendre comment nous pouvons prendre possession de ce pays. Comment le comprendre? Eh bien, nous pouvons le comprendre en méditant la parole de Dieu. Il y en a un qui n'a pas négligé, c'est Caleb. Caleb y est rentré. Tous les autres n'y sont pas rentrés. Josué et Caleb étaient les deux seuls. Regardons un instant, qu'est-ce qui a fait la différence? Dans Nombre 13, quand tous les autres ont entendu la description du pays, d'abord c'est un beau pays, mais tout de suite après, ils ont dit, il y a les géants, nous ne pouvons pas y entrer. Caleb, au verset 30, Nombre 13, 30, il nous dit, Caleb fit taire le peuple. Il a dit, silence, taisez-vous, ça suffit. Nous avons aussi besoin de dire ça. Passe à toutes les voix du diable disant « Tu ne peux pas, tu es incapable de rentrer dans le pays, tu ne pourras jamais expérimenter la prospérité ou la bonne santé ou d'autres choses. » La première chose, c'est dire « Taisez-vous, je ne veux rien entendre de ça. » Tout ce qui parle contre la parole de Dieu, silence. Des hommes ont dit « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, nous ne pouvons pas rentrer. » Ils ont obtenu ce qu'ils ont déclaré. Ce que vous dites s'accomplira. Ce que vous dites s'accomplira. Toujours. Mais Caleb, lui, il a dit, nous pouvons y rentrer. Quand les autres se sont révoltés contre Moïse, ont voulu même se trouver un autre leader pour retourner en Égypte, eh bien Josué et Caleb, ils ont parlé ainsi à toute l'assemblée d'Israël. Ils ont dit, le pays que nous avons parcouru, je suis dans Nombre 14:7, pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. Et aussi, ne craignez pas les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâturage. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Donc, plusieurs choses. Premièrement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. Décidez une fois pour toutes dans votre vie que quand la parole de Dieu le dit, c'est la vérité, un point, c'est tout. Dieu a raison et j'ai tort. Dès que je dis, moi je sais mieux que Dieu, je suis en train de me rebeller. Je ne suis plus du côté de Dieu, je suis en train de travailler contre lui. Donc ça c'est une chose. Ensuite, ne craignez point les gens de ce pays. Donc, ne pas tout le temps être avec nos yeux inquiets. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Pensez plutôt un petit peu, qu'est-ce que le Seigneur pense? Qu'est-ce que lui, il a dit de ce que je fais? Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite? Ils ont dit, l'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Quand quelqu'un va commencer à parler un langage de la foi, même dans l'assemblée, il y a des gens qui sont prêts à le lapider. Ceux qui pensent dans le naturel. Ils disent non, c'est trop, ça c'est extrême, ça ne marche pas. Et ils ne veulent pas l'entendre. Mais la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation. Quand j'ai dit qu'il nous faut tenir compte de ce que Dieu pense et de ce que lui dit, eh bien là nous voyons qu'il y avait l'approbation de Dieu. La gloire de Dieu est descendue de dire, je suis d'accord avec ce qu'ils viennent de déclarer. J'approuve. Ils ont parlé ainsi à toute l'assemblée et la gloire de Dieu est apparue pour montrer, eh bien, ceux-là, je les approuve, je confirme ma parole et ils ont obtenu la bénédiction. Quelle était la bénédiction? Eh bien, c'est qu'ils sont effectivement rentrés. Mais seulement, ils ont dû attendre 40 ans pour rentrer. On me dirait, 40 ans, c'est long dans une vie. Mais Dieu a agi d'une façon miraculeuse pour que Caleb, même 40 ans après, il n'avait rien perdu de sa vigueur. C'est-à-dire, littéralement, son corps n'a pas vieilli. C'est pas à cause des autres que lui a été empêché de recevoir de Dieu. Il a dû attendre un délai, mais ensuite, il avait encore toute la force et la vigueur qu'il avait 40 ans avant. Formidable, non? Alors, même si les autres ne rentrent pas, vous pouvez choisir d'y rentrer. Mais seulement, vous devez savoir aussi qu'il y a une pression qui s'exerce. Dès que quelqu'un rentre dans le pays promis, il y a des gens qui commencent à être jaloux, envieux, des bénédictions. Mais vous n'allez quand même pas vous priver de la bénédiction de Dieu, simplement pour que les autres ne soient pas jaloux. Il y a un petit proverbe qui dit « Il vaut mieux faire envie que pitié ». Eh bien, nous préférons bénéficier des bénédictions de Dieu et donner envie à quelqu'un de s'approcher de Dieu, plutôt que d'être misérable comme le reste et de dire, mais vous savez, nous ne sommes pas mieux que vous. Qui est intéressé par cet évangile? Et pendant ce temps, eh bien, nous voyons des fois des pécheurs qui prospèrent et ceux-là sont des exemples que les gens ont envie de suivre. Eh bien, soyons nous de ceux qui montrent une voie vers Dieu. Il y a 5 points que j'aimerais vous exhorter à faire régulièrement, si ce n'est chaque jour. 5 points qui concernent votre vie, où je vous exhorte à méditer. Méditer, ça veut dire Si vous lisez pendant des heures la Bible, c'est bien. Mais ce qui est important, c'est que vous méditiez régulièrement. Premièrement, méditez chaque jour des passages de la parole de Dieu qui parlent de la foi. Combien de fois dans votre journée êtes-vous dans des situations impossibles? J'ai parlé de certaines situations. Des fois, vous êtes incapable, impossible de faire. Eh bien, à ce moment-là, vous devez développer en vous cette notion que tout est possible à Dieu. Marc 10, 27. Tout est possible à Dieu. Ensuite, vous y rajoutez Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. Et vous combinez les deux. D'accord? Chaque fois que vous voyez, moi je ne peux pas faire ça. Pensez, mais Dieu peut. Dieu peut, parce que Marc 10, 27 dit, tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. On est tous d'accord là-dessus, non? Tout est possible à Dieu. Et alors, des fois, on se dit, mais Dieu pourrait, mais moi, je peux pas. Alors, vient se rajouter, mais tout est possible à celui qui croit. Si toi, tu peux croire, et si tu marches avec Dieu, eh bien, tout est possible à Dieu, mais aussi tout est possible à celui qui croit. Développez en vous cette notion de votre capacité. De votre capacité qui vient de Dieu et qui fait que vous pouvez tout par Christ qui vous fortifie. Hein? Souvent on le dit aussi, je puis tout par Christ qui me fortifie. Encore à méditer. Pensez-y, relisez-le. Et au bout d'un moment, vous allez voir comment votre esprit est en train de s'élever, est en train de grandir. Et quand la prochaine fois vous êtes devant une situation impossible, avant que vous ayez dit « je peux pas », eh bien cette parole vient « je puis tout par Christ qui me fortifie ». Ça ne veut pas dire que vous allez tout de suite le réaliser, mais vous allez être capable maintenant, ouvert, pour recevoir les idées de Dieu. Comprenez? Si vous dites tout de suite « je ne peux pas », comment est-ce que Dieu peut vous aider et même vous donner des idées? Et peut-être si vous ne pouvez pas, Dieu peut pourvoir par quelqu'un. Il peut vous envoyer quelqu'un qui peut, lui. Mais si vous dites tout de suite « ça ne va pas », c'est terminé. Il n'y a plus rien. Donc, développer la foi, constamment méditer sur la foi. Ensuite, deuxième point, méditer sur la prière. Pourquoi méditer sur la prière? Méditer sur la prière, ça vous donne ce sens, mais je suis en communication avec Dieu, j'ai ce privilège. Vous savez, il y a des millions, je parle de millions ou de milliards de gens sur terre qui font des prières. Ils prient, c'est-à-dire ils disent des mots, ils font récitent des choses et ils espèrent que quelqu'un les entende. Ils aimeraient bien. Des fois, ils veulent calmer la colère d'un Dieu ou avoir la faveur d'une divinité ou je ne sais quoi. Vous savez que la plupart de ces gens, ce qu'ils font est totalement inutile. Et ça ne sert à rien. Ils s'adressent à des statues, ils s'adressent à des dieux qui ne sont pas des dieux. Mais vous connaissez le vrai Dieu. Le seul vrai Dieu, le Dieu vivant et vrai, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est celui-là. Et c'est le seul. Et donc, soyez conscients que la prière, ce n'est pas seulement votre devoir religieux, c'est votre privilège d'enfant de Dieu. Comme si vous aviez, je ne sais pas moi, un roi ou un président ou un grand chef de je ne sais quoi, très occupé. On ne vient pas chez lui comme on veut, hein. Il y a là tout un planning, un agenda, des secrétaires qui filtrent, qui font leur rendez-vous. Mais si son enfant veut venir, il n'a pas besoin de rendez-vous. Il peut aller directement voir son papa. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Nous avons cette possibilité. Donc, méditez. Luc 18, Jésus leur donna cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours rester en communion avec Dieu. Toujours lui parler, toujours lui parler. N'ayez pas peur de venir à lui. Et même lorsque vous avez fait quelque chose, vous savez très bien c'était un péché, n'auriez pas dû, ne vous éloignez pas de lui, mais courez vers lui, parce qu'il le sait déjà ce que vous avez fait. Il vous connaît, vous n'avez même pas besoin de chercher d'excuses. Venez tel que vous êtes et vous serez accueillis. C'est la promesse que nous avons, nous serons toujours accueillis. Jésus a dit, je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Jamais. Même quand vous vous sentez misérable, malheureux, et que vous savez que vous avez fait ce que vous n'auriez pas dû faire, venez à lui. Ne courez pas loin de lui, mais courez vers lui. Troisième point, c'est la prospérité. Méditez tous les jours sur la prospérité. Comment allez-vous être capable de pourvoir aux besoins pour vous-même, votre famille, de pouvoir participer à l'œuvre de Dieu, annoncer l'Évangile, si vous n'avez rien? La prospérité est une doctrine de la parole de Dieu, une doctrine de base, qui montre qu'à cause de l'amour que Dieu a pour ses enfants, il n'a jamais voulu que ses enfants manquent de quoi que ce soit. Dans Deutéronome 28, voilà le passage que je vous donne à méditer. Non pas à lire une fois tous les 6 mois, mais à méditer. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Alors voilà toutes les bénédictions qui sont promises au peuple d'Israël. Et rappelez-vous, pendant que nous allons lire ça, que nous avons une alliance meilleure par le sang de Jésus. Parce que quand nous lisons ça, on a l'impression, souvent, on voudrait dire, ce serait déjà bien si on avait ça. Et la Bible dit qu'on a mieux que ça. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, tes enfants. Il s'agit de nos enfants. Quel parent ne veut pas le meilleur pour ses enfants? À nous de prendre possession à nouveau de notre pays promis. Le fruit de ton sol, c'est pour vos jardins, vos champs, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros, de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Même le menu bétail, même des fois les animaux domestiques. Pourquoi pas? Quand je vois que des gens, des fois, même qui ont peu de moyens, sont capables de dépenser des milliers de francs pour un vétérinaire ou pour ceci ou pour cela, eh bien, nous avons ici des promesses de prospérité. Si l'animal n'est pas malade, il n'y a pas besoin de vétérinaire. Vous gagnez de l'argent. Exercez votre foi. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Une corbeille, c'est les provisions. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Et ça, c'est de nouveau la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu, c'est que des gens autour de nous voient que nous sommes appelés du nom de l'Éternel. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Il y a des gens, à un moment, il y avait ces façons d'enseigner dans l'Église. Oui, nous sommes tous pareils, on a des hauts, on a des bas, c'est normal, c'est comme ça qu'on est. Eh bien, la Bible ne dit pas ça. Elle dit que si tu as des hauts et des bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne marches pas dans la bénédiction de Dieu. Puisque la promesse de Dieu, c'est d'être en haut et pas en bas. Si je suis en bas, ça veut dire que je suis sorti de l'alliance. Pour le peuple d'Israël, ça voulait dire qu'il avait désobéi à la voix de Dieu et ne voulait pas observer ses commandements. Pour l'enfant de Dieu que nous sommes, ça veut dire que nous avons désobéi à la voix de l'Éternel et pas observé ses commandements. Sauf que pour nous, ce ne sont pas les 10 commandements, ce sont les 2 commandements. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Nous avons désobéi à ce commandement, que nous ne pratiquons pas la parole de Dieu dans les directions qu'il nous donne. Nous connaissons alors non pas cette bénédiction, mais nous voyons qu'il y a des failles, il y a des choses qui manquent. Mais ces choses ne sont pas dites pour mettre quelqu'un sous la condamnation, mais pour vous dessiner le portrait du pays promis. Le portrait du pays promis, comme les espions l'avaient brossé. Ils avaient dit, c'est un pays formidable. Ils en ont montré juste un extrait, un fruit. Donc que nous soyons aussi ceux qui pouvons montrer un fruit du pays promis à quelqu'un. Pour dire, j'ai commencé de marcher dans le pays promis. Regarde, voilà un des fruits. Il y a encore plus, et il y en a pour toi aussi. Tu n'as pas besoin de partager cette grappe entre tout le monde. Même si elle est très grosse, qu'il faut un bâton et 2 hommes pour la porter. Mais il y a plus que ça. Mais il ne faut pas négliger de rentrer dedans. Encore 2 points que j'aimerais soumettre à votre méditation. Bien sûr, vous pouvez méditer tout ce que vous voulez de la parole de Dieu, hein, mais j'ai retenu 5 points qui me semblent vraiment au quotidien importants. La foi, je dis, la prière, prospérité, la présence du Saint-Esprit en nous. Méditer constamment, cette présence du Saint-Esprit en nous va peut-être nous empêcher de faire certaines choses, puisque nous sommes conscients de l'Esprit de Dieu en nous. Et au contraire, va nous donner du courage pour faire certaines choses, parce que nous savons que le Saint-Esprit est avec nous. Alors on va prendre, à titre d'exemple simplement, mais vous comprenez que vous pouvez trouver vos propres passages dans l'Écriture, que vous méditez constamment. Eh bien, dans Romains, je prends Romains 8, il est dit au verset 9, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Et il habite en nous. Comment est-ce qu'on le sait? Eh bien, parce que je suis né de nouveau. Je suis né de l'Esprit. L'Esprit de Dieu est venu habiter en moi. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et le 5e point, c'est de constamment méditer sur la santé. Avoir une bonne santé, des forces, eh bien c'est la suite. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Nous avons reçu les prémices, un acompte de la part de Dieu, un acompte pour la vie éternelle. Mais pourquoi vivre au minimum de cet acompte? Alors qu'au contraire, nous voyons ici, il y a même une promesse pour nos corps mortels. Plus tard, quand je serai dans l'éternité, que j'aurai un corps incorruptible, céleste, j'aurai plus besoin de guérison divine. La promesse est pour maintenant. C'est pour maintenant la bonne santé. Et rappelez-vous que c'est aussi la façon dont les fils de Dieu se révèlent. Alors, levez les yeux et regardez cette, pourrait dire, une nouvelle génération de chrétiens qui marchent dans la parole de Dieu, qui méditent sans cesse. Ils pensent des pensées de foi. Ils méditent sur le fait qu'ils sont capables de tout accomplir au nom de Jésus. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tout est possible à celui qui croit. Ils ont cette communication avec Dieu. Ils prient tous les jours. Constamment, ils parlent à Dieu. Ils se laissent remplir du projet de Dieu, des pensées de Dieu concernant leur avenir financier, matériel, professionnel. Et ils reçoivent la bénédiction de Dieu en abondance. Amen.